bisphénol, hein, ça va devenir de plus en plus majeur. Moi, j'ai eu une bonne nouvelle. Depuis qu'ensemble, nous avions organisé une audition collective confrontant les associations, les chercheurs et les industries, que Nestlé vient de décider, programme mondial, ils sont, je crois, 92 filiales dans le monde, et pas seulement en Union européenne, de se fixer comme objectif, dans chacune de ces filiales, aucun bisphénol dans plus aucun contenant alimentaire des produits Nestlé au printemps 2013. Pourquoi ? Hein ? Pourquoi ? Parce que la direction suisse a été sensibilisé par la vision de cette audition que nous avions réalisée ici à la salle de la commission des affaires culturelles. Donc on a de l'espoir, d'autant que nous avions constaté les évolutions qui sont relativement même étonnantes depuis 2009, avec le déni qui était opposé par les fédérations de l'emballage, les fédérations de l'agroalimentaire, fédérations du plastique, concernant les effets sanitaires et de perturbations endocriniennes du bisphénol. Et là, l'absence de débit, de déni et la reconnaissance du problème à traiter de la part de tous les industriels qui ensuite ont leurs problèmes, notamment les conserveries. C'est pour ça que nous avions adapté les textes. Enfin, moi, j'étais très, très intéressé par plusieurs. Je n'ai pas pu tout écouter ce matin. Pourquoi ? Parce que je m'adresse à la mutualité. Je faisais le go-between, là, avec l'Assemblée, puisqu'on a un texte en ce moment qui risque de bousculer beaucoup la mutualité et qui risque donc de lui enlever quelques moyens par lesquels elle peut mener ce type d'action. Voilà. Donc, ça m'a fait faire un peu de marche entre les deux, en espérant avoir un petit peu limité les dégâts. Mais je crois qu'il faut continuer, bien entendu, par des propositions de loi. Ce matin, tu n'étais pas là, mais concernant les achats groupés ou les appels d'offres sur les équipements hospitaliers ou médico-sociaux, il y a sans doute des choses à faire, mais M. Thomas, je crois, n'est plus là. Il a aussi fait une proposition très intéressante et qui nous concerne tout de suite, concernant les indices de substitution. Parce que c'est toujours l'argument qui est opposé en disant « mais vous allez supprimer quelque chose, mais vous allez peut-être mettre quelque chose de pire. » Ah bon ? Et comment éviter qu'on mette quelque chose de pire ? Oh ben il y en a pour des années et des années d'études. Ah d'accord ! Ce qui justifie bien entendu l'inertie. Donc ça sera très très important d'essayer de progresser sur cet indice de substitution, ce d'autant plus que dans la loi que nous avions votée, il y a un paragraphe disant que le rapport gouvernemental qui doit être remis, je crois, un an après la promulgation ou 18 mois après la promulgation, doit faire le point sur cette substitution. Alors, autant proposer effectivement des indices qui nous permettent de nous arrimer un petit peu à des références pour progresser par la suite, bien entendu. Voilà, moi, c'était les quelques mots de réflexion que je pouvais vous confier.
Merci. Je rebondis avant de passer la parole à mon voisin de gauche, parce que je pense effectivement qu'il y a un aspect qui n'a pas été abordé, mais qui est très important, c'est la protection des malades chroniques de l'atteinte de l'environnement. Cette question-là n'est pas abordée. Et c'est peut-être aussi la façon de faire en sorte que les professionnels de santé, les médecins, s'investissent plus sur la question santé-environnement, parce que là, on est dans le colloque singulier. Quand un diabétique, on découvre effectivement un diabète chez un diabétique, personne, aucun médecin à ma connaissance, n'est-ce pas Philippe, tu ne me contrediras pas, lui dit « mais quel est votre taux de bisphénol ?» Et donc on va aller faire le dosage en Allemagne pour savoir le taux de bisphénol et savoir comment on se détoxifie en bisphénol. Ça ne rentre pas, ça n'est évidemment pas dans la pratique. Alors, ce n'est pas la responsabilité des médecins, la question de la haute autorité, le fait que la haute autorité de santé ne s'est pas saisie encore de cette question est un vrai enjeu. Je pense qu'il faudra qu'on travaille sur cet aspect-là. Toi, tu le fais, mais mis à part Saint-Omer, le reste de la France n'est pas encore sur cette pratique-là. Et donc, je crois que là, il y a un vrai enjeu, et c'est à discuter certainement aussi avec les associations de malades. Claude Rambaud était présent, je ne sais pas s'il est toujours là dans la salle. Il faut qu'on travaille avec le CIS, qu'on travaille avec le CIS sur cette question, que les associations de malades se saisissent de cette question. On n'est plus là dans l'enjeu, effectivement, important d'éviter la maladie, on est dans le fait d'éviter qu'elle se complique et d'aider, effectivement, le malade à lutter contre la maladie. C'est vrai pour les diabétiques, c'est vrai pour les malades du cancer du sein, c'est vrai pour toutes les maladies chroniques d'ailleurs. Hein. Et là, l'enjeu est extrêmement important, évidemment. Voilà. Robert Barouki, tu as, je suis sûr, des choses pertinentes à dire.
On va revenir un peu à la science, mais ce que je veux dire, enfin, je vais me focaliser sur un point. Il n'y a aucune contradiction entre la précaution et la rigueur scientifique. Parfois, on a tendance à croire que c'est contradictoire. Ce n'est pas contradictoire, c'est, je dirais même, l'inverse. Parce que quand on a des certitudes scientifiques, c'est facile. On est dans la prévention, c'est le problème. Et pour nous régler, je veux dire, le tabagisme, on ne va pas rester des années en dessus. C'est clair, c'est réglé. La science doit intervenir quand, justement, on est en train de produire les résultats et qu'on est dans un domaine d'incertitude. Et c'est là qu'on a besoin d'encore plus de science et d'encore plus de science rigoureuse pour essayer de voir où on se situe dans le niveau de preuve et le degré d'incertitude. Et c'est une science même assez fondamentale qui peut entrer en jeu, parce que, pour reprendre l'exemple du bisphénol A, ce ne sont pas les tests réglementaires traditionnels qui ont mis en avant la toxicité du bisphénol A, non, ce sont des laboratoires comme les nôtres, enfin tout ce qu'il y a de plus de laboratoires, de recherche assez fondamentale, qui ont commencé à trouver des effets qui ne sont pas révélés encore par les tests. Ça veut dire que les tests réglementaires doivent évoluer, bien entendu, mais ça veut dire aussi qu'une science assez amont peut parfois amener des arguments qui sont in fine utilisés pour pouvoir légiférer, par exemple. C'est pas parce qu'il y a des incertitudes. Et quand on est rigoureux scientifiquement, on est obligé de pointer les incertitudes. Ça fait partie de notre logiciel, si j'ose dire, et il faut le faire. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des incertitudes qu'il ne faut rien faire, qu'il ne faut pas agir derrière. Il y a différents niveaux d'incertitudes. Hein, je veux dire, quand il y a des fois où on a des arguments extrêmement forts expérimentalement et qu'on a du mal à avoir des résultats chez l'homme, ça arrive souvent, hein, ce n'est pas si simple que ça. On a parlé ce matin des faits qui remontent 30 ans avant, on a une pathologie, mais la cause remonte à 30 ans avant. C'est extrêmement difficile d'avoir des arguments forts chez l'homme. Donc, quand on a des arguments assez forts chez l'animal et pas chez l'homme, il faut en tenir compte et éventuellement prendre des décisions. Mais parfois, chez l'animal, on a différents niveaux de preuves. Il faut classer les choses. Donc, les scientifiques doivent apporter cela, je veux dire, apporter de la rigueur et apporter des arguments et les transmettre au public, comme on l'a dit ce matin. Maintenant, ce n'est pas aux scientifiques de fixer le seuil à partir duquel il faut agir. Les scientifiques doivent dire ce qu'ils savent et éventuellement établir une petite hiérarchie entre ce qu'ils savent, entre différentes classes de produits. Mais établir le seuil, ça implique des décisions qui ont une conséquence dans la vie de tous les jours. Et donc ça, c'est aux citoyens, donc aux politiques, de quelque part, de fixer quel type de société on veut être, où on veut vivre, est-ce qu'il faut fixer les seuils très bas, très haut? Enfin bon, ça c'est une question qui relève de l'ensemble de la société. Les scientifiques, ce qu'ils doivent amener, ce sont des arguments les plus solides, les plus clairs possibles pour pouvoir aider à la décision publique. Donc aider la recherche aujourd'hui dans ces domaines-là, ça veut dire aider la prévention et les décisions des années suivantes. Et donc il y a des décisions qui sont prises et d'autres vont être prises, mais c'est la recherche d'aujourd'hui qui va aider à prendre des décisions dans quelques années. Donc il faut absolument aider cette recherche. Et donc dans les propositions que les alliances vont faire, que ce soit en général sur santé et environnement et en particulier sur les perturbateurs endocriniens, il y a cette demande d'aide à la recherche au travers de différentes agences, hein, de l'ANR, au travers du PNRPE, je laisserai Rémi en parler tout à l'heure. Donc la recherche d'aujourd'hui va aider la prévention et les décisions pratiques prise demain. Et bon, il n'y a pas que la recherche. Moi, j'ai entendu des choses extraordinaires cet après-midi qui mettent en pratique un certain nombre de choses. Et nous, on a peut-être plus de mal à le faire, mais j'ai été très impressionné. Et donc, il n'y a pas que ça, mais ça peut aider. Et ça rentre dans cet ensemble-là, dans cet ensemble d'actions.
Merci. Dans la recherche, il y a eu un appel du pied, hein, tout à l'heure, hein, évaluer effectivement l'importance de ces pratiques de terrain. Je crois qu'il y a besoin effectivement là aussi d'une recherche qui montre que la prévention, c'est effectivement beaucoup plus efficace, ça coûte moins cher et que ça permet d'avoir une amélioration au niveau sanitaire. Donc le beurre et l'argent du beurre, si on peut dire. Serge Berg.
Merci. D'abord un commentaire général. Là aussi, vous remercier pour votre invitation. C'est vrai que, comme cela a été dit, ça a été un débat extrêmement riche, des présentations très intéressantes. Pour moi, j'ai beaucoup appris. Alors, j'ai pas trop de mérite parce que je viens de très loin. J'ai pas une habitude, une expérience dans le domaine des perturbateurs endocriniens. J'étais vraiment très intéressé à la fois sur les discussions scientifiques que sur les applications pratiques. Alors, je suis un épidémiologiste de la nutrition. Je préside le PNS maintenant depuis 12 ans. Alors, le PNS avait choisi au départ de ne pas intégrer certaines dimensions. C'est un choix parce qu'il n'était pas possible d'envisager tout. Et le risque toxicologique, le risque de la prise en considération des facteurs chimiques n'avait pas été retenu au départ de la même façon que d'autres plans, le tabac ou la consommation d'alcool, etc., n'ont pas été retenus en tant que tel au départ dans le PNNS. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans une époque différente. Et j'aurais deux types de remarques. D'abord, une première, c'est qu'en écoutant le débat, je retrouve un peu ce que l'on a vécu et ce qu'on vit encore dans le cadre du Programme national nutrition santé. La discussion sur les fondements scientifiques servant recommandations, la demande sociétale des consommateurs qui ont besoin de s'y retrouver dans ce qui a été longtemps et ce qui est encore souvent une cacophonie nutritionnelle. Le nombre très grand d'émetteurs, alors peut-être encore plus dans le domaine de la nutrition, les pressions économiques, les lobbies, les arguments qui souvent tentent de bloquer l'action de santé publique, dont je retrouve énormément de points communs, ce qui a été dit, l'importance de la recherche, l'importance d'une recherche à la fois pour comprendre des bases scientifiques, et je partage ce qui a été dit par Robert et puis ce matin par Rémi. On a besoin de connaissances scientifiques, on a besoin de recherche, on peut faire de l'action sans avoir atteint le golden, enfin le must le plus haut en termes de niveau de preuve. Et Robert prenait l'exemple du tabac en disant on n'a pas besoin, disons, de plus d'éléments. On applique directement. Mais pour le tabac, on se rend compte qu'on ne connaît pas tout parce qu'on ne sait pas les mécanismes intimes. Pour l'alcool, pareil. Mais on a suffisamment d'arguments pour traduire la connaissance scientifique en application de santé publique. Et donc, je pense qu'en effet, d'un côté, il faut favoriser la recherche. On en a besoin pour comprendre, pour avoir des fondements scientifiques à l'action de santé publique, pour aussi comprendre ce qui détermine les comportements, les choix, ce qui limite ou les freins que l'on peut reconnaître et les leviers sur lesquels on peut agir. Donc, on a vraiment besoin de recherche, mais c'est vrai qu'on a la possibilité, si les arguments scientifiques sont suffisants, pour émettre un certain nombre de recommandations. Alors maintenant, peut-être par rapport à l'articulation PNNS et la discussion qu'il y a eu aujourd'hui, je pense qu'un des éléments très fondamentaux, et je remercie beaucoup à la fois le RES et la Mutualité française pour m'avoir invité au nom du PNNS, c'est la nécessité de décloisonner les choses. On est tout de même dans un saucissonnage, notamment au travers des plans. C'est un des reproches qu'on leur fait souvent. Et c'est vrai qu'il faut que se croisent, que se rencontrent les stratégies de santé publique. Alors, peut-être qu'il y avait plusieurs grands absents. Le Programme national alimentation qui a notamment dans le PS, la charge de l'offre alimentaire, particulièrement concernée par votre débat. Il faut absolument dialoguer avec les ministères, enfin le ministère de l'Agriculture en charge de ce programme. Le plan santé à l'école, j'ai bien compris qu'au-delà même de l'alimentation, il y avait dans les perturbateurs endocriniens d'autres sources dans lesquelles des actions sont nécessaires, le plan alimentation insertion, plan cancer, etc. Donc il y a une forte nécessité de cloisonnement. Je suis ravi d'entendre ce qui se passe au ministère de l'écologie. Alors, madame, je suis désolé, ne le prenez pas pour vous, mais dans le programme national nutrition santé, nous avons un comité de pilotage. Alors j'ai dit ce matin que le ministère de l'écologie n'en faisait pas partie. Et en fait, on m'a fait remarquer, si, il en fait partie, mais il n'a jamais été présent dans aucune des réunions depuis 12 ans. Donc, peut-être faut-il que l'on renforce un petit peu ces échanges. Si une stratégie sur les perturbateurs endocriniens se met en place, il est peut-être souhaitable, en effet, qu'on réfléchisse ensemble. Alors, je me doute qu'il doit y avoir des représentants du ministère de la Santé dans votre comité. Il faut qu'à l'intérieur même du ministère de la Santé, on facilite l'articulation entre les services. Donc, on voit qu'on a vraiment un vrai besoin de mutualiser, d'échanger, de manière à avoir une stratégie cohérente. Et donc, ce que je retiens, moi, de ce colloque, indépendamment de tout l'intérêt des présentations qui a été faites, c'est vraiment le souhait profond, je crois, de différents acteurs. Et nous avions déjà discuté avec André Sicolella il y a déjà quelques mois, la nécessité vraiment de mettre en commun les actions. Le PNNS ne s'intéresse pas à l'ensemble de la problématique, ou ne s'intéressera pas à l'ensemble de la problématique des perturbateurs endocriniens, mais bien évidemment au niveau des recommandations qui peuvent être faites sur l'alimentation, au niveau des actions que l'on peut faire, au niveau des pressions qu'on mène sur les industriels, que ce soit sous des formes volontaristes ou sous des formes de régulation, il faut sûrement intégrer cette nouvelle dimension. Donc mon plaidoyer dans cette table ronde, c'est vraiment pour les échanges, le dialogue et vraiment la mise en commun de manière à ce que les actions soient vraiment synergiques, cohérentes et complémentaires.
Merci. Rémi. La fin.
Oui, donc effectivement, le sujet qui nous a occupé aujourd'hui est vraiment emblématique du problème des perturbateurs endocriniens, à la fois pour ses enjeux, mais aussi ses difficultés scientifiques et de gestion du risque. Avec les troubles métaboliques, on est face à des pathologies qui sont visibles dès l'enfance et pour certaines et relativement fréquentes, d'où un lien avec les expositions précoces qui est probablement plus évident que pour d'autres pathologies, en tout cas pour le grand public, que pour les cancers de l'adulte. On a des pathologies qui sont multifactorielles vraiment par excellence. On dit que toutes les pathologies chroniques sont multifactorielles, mais là, c'est très visible par le fait qu'il y ait des déterminants comportementaux majeurs, tels que l'activité physique, la nutrition, si on rentre ça dans les facteurs comportementaux, une composante génétique qui, pour le moment, on n'a pas l'impression qu'elle soit majeure, mais enfin qui, en tout cas, est réelle, et une composante environnementale qui est probablement pas limité aux perturbateurs endocriniens, mais qui inclut bien sûr les perturbateurs endocriniens. Et tout ça est complètement intriqué, puisque certains de ces déterminants des troubles du métabolisme, tels que l'alimentation, sont aussi une source potentielle d'exposition aux perturbateurs endocriniens. Donc je peux que rejoindre Serge Gribert quand il dit qu'on ne peut pas raisonner ou réfléchir à toutes ces problématiques de manière indépendante, hein. Tout ça est extrêmement lié. Il faut que les recommandations d'alimentation soient faites en prenant en compte l'exposition potentielle aux perturbateurs endocriniens, notamment. Alors, si on en revient à la stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens qui est en cours de discussion, qui a quatre axes sur recherche, expertise, réglementation et communication, moi, je voudrais juste dire quelque chose sur les deux premiers points qui sont ceux qui me concernent plus en tant que chercheur. Pour ce qui est de la recherche, on a évoqué beaucoup d'enjeux. Il faut que la recherche puisse continuer à avancer en parallèle avec la décision politique et l'alimenter. Et on a quand même un vrai enjeu de réussir à pérenniser cette recherche. L'activité scientifique, elle se fait sur le long terme, hein. La problématique des PE, ça fait une vingtaine d'années qu'il y a une recherche active sur la question, et vous voyez que les choses commencent à être claires, disons, depuis 5 à 10 ans. Pour monter des équipes de recherche, pour mettre en place des plateformes, des grosses études, des cohortes ou des plateformes de dosage pour faire de la biosurveillance et motiver des jeunes chercheurs pour venir dans ce domaine, l'ordre de grandeur, c'est plutôt 5 à 10 ans, et il faut que y ait cette visibilité sur le moyen terme, et actuellement elle n'est pas vraiment là. Il y a des programmes, et l'ANSES, l'ANR font des efforts. Il y a un programme aussi spécifiquement dédié aux perturbateurs endocriniens qui est le PNRPE, mais il est porté par essentiellement le ministère de l'écologie avec le soutien de l'ADEME, mais c'est un programme qui n'a pas pu lancer d'appel d'offres depuis maintenant 3 ans, ce qui commence à faire long et qui peut démobiliser les équipes de recherche qui ont vraiment besoin de cette dotation pour lancer des projets spécifiques sur cette thématique. Il faut savoir que ce n'est pas du tout la faute du ministère de l'écologie, à ma connaissance, hein. Le budget de recherche, le budget du service de la recherche du ministère de l'écologie a été divisé par, à ma connaissance, 2 ou 3 sur une période très courte de quelques années. Et ça pose vraiment des questions sur les moyens dont on va pouvoir disposer cette recherche, en tout cas en France, dans les prochaines années. Et ce serait très important que, en tout cas parmi, que ce soit un axe crucial de cette réflexion sur la stratégie nationale, que de pouvoir pérenniser cette recherche sur l'effet sanitaire des perturbateurs endocriniens et l'effet d'ailleurs aussi des perturbateurs endocriniens sur l'environnement. Et en termes d'expertise, on a plusieurs questions qui ont déjà été évoquées, celle effectivement de la définition, de la nécessité d'une définition claire des perturbateurs endocriniens, et il y a probablement aussi un problème de lisibilité des expertises qui sont commandées et des agences. Rien qu'en France, il y en a eu plusieurs sur des thèmes qui ne sont pas identiques mais qui se recoupent partiellement dans les dernières années auprès de différentes agences. On attend l'avis prochain de l'ANSES sur le bisphénol A notamment. Et je crois que tout ceci, à la fois a une certaine justification, mais je pense que pour le grand public, c'est pas forcément facile à suivre, et aussi d'ailleurs probablement pour les décideurs. Le problème n'est pas du tout spécifique à la France, puisqu'il y a la même chose au niveau national, mais il y a un enjeu à essayer d'avoir une expertise qui fasse autorité sur ces questions et qui soit mise à jour régulièrement.